France Culture.
Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en Pologne dès le début de ce journal, où le deuxième tour de l'élection présidentielle a livré un résultat surprise. Le candidat nationaliste obtient une courte victoire.
Les sanctions en cas de non-respect des nouvelles obligations du RSA sont effectives depuis hier.
Et toujours aussi décriées par les nombreuses associations qui travaillent avec les allocataires, nous le verrons. Et puis les députés se penchent aujourd'hui sur une loi qui vise à empêcher tout futur arrêt du chantier de la 69. Après ce journal, quelle question du jour ? Antoine Dulster.
Allons-nous vers un espace public complètement débarrassé du tabac ?
Réponse à partir de 7h15. En Pologne, c'est donc bien le candidat nationaliste qui arrive en tête du second tour de l'élection présidentielle. Résultat officialisé il y a quelques minutes et revers majeur pour l'actuel gouvernement pro-européen. Karol Nawrocki, 42 ans, historien, nationaliste, admirateur de Trump, a obtenu 50,89% des voix contre son rival de 53 ans, Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie et allié du gouvernement centriste. Un résultat qui pointe la polarisation désormais des pays de l'Union européenne et de l'OTAN et qui pourrait changer beaucoup de choses pour la Pologne dans sa relation avec Bruxelles, mais aussi avec l'Ukraine qu'elle soutenait contre Moscou jusqu'à présent. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous.
Vous êtes en Pologne pour France Culture. Personne n'avait vu venir ce résultat, Sébastien.
Oui, c'est un retournement complet de situation qui s'est passé dans la nuit. Depuis un peu plus d'une heure, plusieurs grands médias polonais, Rzeczpospolita et le portail d'information Onet, donnaient déjà Karol Nawrocki vainqueur. C'est maintenant confirmé. Le candidat du PiS remporte le scrutin. 50,9% des voix pour Nawrocki contre 49,1% pour Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, soutenu par la coalition au pouvoir de Donald Tusk. Hier soir à 21h, à la fermeture des bureaux, les estimations donnaient pourtant une légère avance à son rival, ce qui n'avait pas empêché Karol Nawrocki de revendiquer la victoire au milieu de ses partisans dans son QG de Varsovie.
Nous vaincrons et nous sauverons la Pologne. Nous ne permettrons pas que le monopole de Tusk s'installe, un pouvoir qui nous prive de nos grands rêves et de nos aspirations.
Nuit blanche donc dans les états-majors des deux candidats à Varsovie jusqu'à ce dénouement. Les voix des deux candidats d'extrême droite éliminés au premier tour ont donc profité à Karol Nawrocki. La commission électorale devrait confirmer dans la matinée cette victoire qui marque un revers de taille pour la coalition pro-européenne de Donald Tusk. Nawrocki, 42 ans, est un grand admirateur de Donald Trump. Son slogan, la Pologne et les Polonais d'abord. Dans une vidéo de campagne, ce boxeur amateur dénonçait les aides trop généreuses, dit-il, versées aux Ukrainiens réfugiés en Pologne. Sa victoire pourrait aussi bloquer les réformes du gouvernement sur les unions civiles pour les couples du même sexe ou sur l'avortement que la coalition de Donald Tusk avait promis de légaliser.
Sébastien Baer à Varsovie. Merci. On en parlait jusqu'à présent. La Pologne était l'un des plus fervents soutiens, si ce n'est le plus fervent de Kiev face à Moscou. En attendant de savoir si la position de Varsovie va changer, une nouvelle séance de discussion est en tout cas prévue aujourd'hui à Istanbul entre les délégations russes et ukrainiennes sous l'égide de la Turquie. Celle du 16 mai dernier, on s'en souvient, n'avait rien donné. Difficile de penser que celle-là fera mieux, d'autant que ces derniers jours, chacun des deux camps a frappé l'autre de façon massive. À Moscou, la correspondance de Sylvain Tronchet.
Ces deux dernières semaines, l'armée russe a accentué sa pression dans le Donbass, mais aussi dans la région de Soumy, où elle a conquis de nouveaux territoires. Ce week-end, l'Ukraine a subi le raid le plus massif qu'elle ait eu à contrer 472 drones et une dizaine de missiles. Le Kremlin souhaitait certainement montrer sa détermination avant la rencontre d'aujourd'hui. Mais Kiev a répliqué. D'abord, la Russie a été le théâtre de deux accidents de train, dont l'un a fait 7 morts et des dizaines de blessés dans la région frontalière de Bryansk. Deux explosions non revendiquées, mais dont Moscou accuse l'Ukraine. Et surtout, hier, les services ukrainiens ont affirmé avoir mené une opération qui a abouti à la destruction d'une quarantaine d'avions bombardiers russes sur 4 bases aériennes, dont l'une se trouve près d'Irkoutsk, à 4000 km de la frontière. Le SBU a introduit clandestinement en Russie des camions remplis de petits drones qui ont méthodiquement détruit ces avions qui participent régulièrement aux raids sur l'Ukraine. Un affront pour Moscou autant qu'une perte majeure, autant d'éléments qui ne laissent que peu de place pour la diplomatie aujourd'hui.
31 personnes au moins ont été tuées à Gaza par des tirs israéliens hier près d'un centre de distribution d'aide humanitaire. Et puis dans le Colorado, aux États-Unis, dans la ville de Boulder, plusieurs personnes ont été blessées dans ce que la police fédérale a qualifié d'attaque terroriste ciblée. Le chef de la police de la ville s'est lui montré plus réservé. L'attaque en tout cas s'est déroulée en marge d'une manifestation réclamant la libération des otages israéliens. Un homme aurait été vu lancer ce qui ressemble à un cocktail Molotov sur un groupe de manifestants. Un suspect a été interpellé.
7h05 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. On passe à l'actualité en France avec un nouveau régime de sanctions pour les allocataires du RSA.
Il est en vigueur depuis hier en vertu de la loi dite plein emploi adoptée en 2023 qui instaure un régime de suspension d'une partie du RSA le cas échéant. Depuis janvier, les allocataires du RSA doivent être inscrits à France Travail et le versement de leur allocation, 646 euros pour une personne seule, est désormais conditionné à la signature d'un contrat d'engagement lequel inclut 15 heures d'activité par semaine. Ceux qui s'y soustrairaient pourraient donc à terme être privés d'allocation. Un dispositif qui vise aussi, Catherine Pétillon, à aligner les allocataires du RSA sur les autres types de demandeurs d'emploi.
S'ils ne respectent pas leurs engagements, les allocataires du RSA sont désormais, comme tous les demandeurs d'emploi, soumis à un nouveau type de sanction appelé suspension-remobilisation. En cas de manquement à leurs obligations, ils risquent une suspension pendant 1 à 3 mois de toute ou partie de leur allocation. Cela pourra aller de 30% minimum à la totalité du RSA. Si après cela le bénéficiaire répond à ses obligations, il retrouve la totalité de ses ressources. Si ce n'est pas le cas, la suspension est reconduite, mais plus longtemps, jusqu'à 4 mois, avant une possible radiation. Le ministère du Travail défend des sanctions plus souples et une logique de remobilisation vers l'emploi. Mais cette réforme est très critiquée par les syndicats, les associations d'aide aux plus précaires ou encore le Conseil national de lutte contre les exclusions, lequel estime que ce système risque d'impacter durement les parcours des allocataires du RSA et d'accentuer les inégalités de traitement. Cet organisme, chargé de conseiller Matignon, avait par ailleurs exprimé son opposition à un barème qu'il juge trop dur au regard du principe de garantie de moyens convenables d'exister. Enfin, rien dans ce texte n'est dit sur les moyens mis en place pour accompagner dans leur recherche d'emploi les près de 2 millions de foyers bénéficiaires du RSA, dénoncent également les organisations.
On l'entendait donc, des dizaines d'associations critiquent aujourd'hui, comme à l'époque, une mesure qu'elles estiment injuste et rappellent qu'une partie des bénéficiaires du RSA ne pourra jamais retravailler pour des raisons de santé ou d'incapacité physique, sans compter que certaines personnes sont trop éloignées de l'emploi et que la menace de sanctions ne suffira pas à améliorer leur sort. C'est ce que pense en tout cas Daniel Goldberg, président de l'Union nationale interfédérale des œuvres privées, sanitaires et sociales.
Dans les 1,8 million d'allocataires du RSA, il y a aussi de nombreuses personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi, qui ne travaillent pas depuis de nombreuses années, qui ont un cumul de difficultés personnelles. Et pour ces personnes-là en particulier, mettre ces sanctions au-dessus de leur tête, en dehors du fait que c'est difficile à supporter d'avoir une sanction au-dessus de sa tête de manière permanente, sans les moyens à côté d'un accompagnement correspondant à leur situation, ça risque de les mettre dans une situation d'encore plus grande précarité. La précarité, elle est pécuniaire si la sanction se met en place, mais aussi c'est une forme de précarité sociale, c'est-à-dire le fait de se sentir vraiment au banc de la société. Or, je ne pense pas qu'aujourd'hui, France Travail ait été dotée en termes de moyens humains, notamment, pour permettre à ces 1,8 million de personnes de remplir leurs nouvelles obligations. Donc, s'il n'y a pas les moyens conséquents donnés à France Travail pour permettre d'accompagner ces allocataires du RSA et de mettre en œuvre très concrètement ces 15 heures d'activité, alors il risque de ne plus rester que la sanction.
Et on rappelle que sur l'ensemble des allocataires du RSA, 43% indiquent avoir au moins une maladie chronique et 16% se disent fortement limités à cause d'un problème de santé. La proposition de loi anti-fast fashion visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile arrive au Sénat aujourd'hui. Un texte imaginé pour encadrer et pénaliser les marques de vêtements, voté en 2024 à l'Assemblée, puis remanié sous l'impulsion des lobbies de l'industrie textile à très bas coût. À l'origine, la loi visait tous les fabricants mettant en danger les droits humains et environnementaux pour vendre leurs vêtements. Désormais, il semble que seuls les Chinois, Chine et Temu soit visée. On reviendra sur cette industrie textile à très bas coût dans le journal de l'Écho à 7h30. Et puis au menu de l'examen des textes par les députés aujourd'hui, il y aura cette proposition de loi sur l'A69, 53 km d'autoroute, on le rappelle, entre Castres et Toulouse, qui a connu de multiples rebondissements judiciaires. Et c'est justement pour éviter ces arrêts et retards d'un chantier déjà bien avancé que plusieurs députés proposent que cette A69 soit reconnue comme d'intérêt public majeur. Seul moyen, selon eux, de passer outre la protection des espèces protégées sur le site. On rappelle que la justice a finalement réautorisé le chantier la semaine dernière. Émeline Bonavent.
Si la loi est votée, le tribunal ne pourra plus contester l'intérêt public majeur du projet. C'est le premier critère sur trois nécessaire à l'obtention des autorisations environnementales. Le seul moyen de contourner l'obligation de protéger les espèces en danger pour mener à bien le chantier. Pour Jean Terlier, député Ensemble du Tarn et rapporteur de la proposition de loi, la démarche s'inscrit donc sur le long terme.
Alors que la décision rendue par la Cour administrative d'appel est une décision provisoire qui autorise donc la reprise du chantier, mais qui ne vient pas valider définitivement ces autorisations environnementales. Et donc on a besoin donc de poursuivre l'examen de cette validation à l'Assemblée pour que de manière définitive on soit sécurisé sur la validité des autorisations environnementales. Et ça permet de sécuriser effectivement une décision en cours d'appel.
Pour faire passer cette loi, il faudra aussi démontrer qu'elle est constitutionnelle en prouvant que le projet est indispensable pour l'État. Une formalité pour Jean Terlier qui estime que l'utilité de l'autoroute et les 300 millions d'euros déjà investis dans les travaux suffiront. Mais Dorian Guinard, maître de conférence en droit public à Grenoble, n'en est pas si sûr.
Pour ce type de projet, c'est-à-dire de contournement ou de construction autoroutière, même pour des montants d'1 milliard d'euros, il n'y a pas de motif impérieux d'intérêt général qui est mobilisé. Les finances publiques de l'État ne sont pas en péril par ce type de projet. Et donc aujourd'hui, la 69 ne mobilise pas un motif impérieux d'intérêt général. Et je pense du coup que si la loi de validation est validée par l'Assemblée nationale, elle sera censurée par le Conseil constitutionnel sur ce motif.
Dorian Guinard regrette que le chantier ait démarré avant le rendu d'une décision définitive, parce qu'il a déjà fait de gros dégâts, selon lui, sur la biodiversité et que l'autoroute a encore des chances d'être interdite.
Émeline Bonavent. Elles investissaient l'église Saint-Nizier à Lyon il y a 50 ans. Une plaque sera posée en leur honneur aujourd'hui. Ces femmes prostituées de Lyon qui dénonçaient à l'époque une répression policière de plus en plus violente à leur encontre, arrestation et peine de prison. Pour la première fois, elles s'unissaient et un demi-siècle plus tard, leur voix, celle des travailleuses du sexe, résonne toujours. Linda Rousseau.
Au départ, la révolte des prostituées dénonce le harcèlement de la police lyonnaise. Les condamnations pour proxénétisme font perdre à ces femmes la garde de leurs enfants. Cette contestation locale fait tache d'huile. À Marseille, Grenoble ou Paris, des prostituées se mettent à occuper des églises pour revendiquer leurs droits. C'est ce qu'explique Lilian Mathieu, sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la prostitution.
La mobilisation, elle produit un renversement des perceptions. Avant 75, le thème de la prostitution, c'est matière à rigolade. Et puis finalement, ces femmes qui s'expriment, qui expliquent qu'elles sont victimes d'injustice, deviennent des interlocutrices crédibles. En tout cas, leur parole vaut d'être écoutée.
Aucune réforme n'est engagée par le gouvernement de l'époque. Mais des collectifs se forment et le premier syndicat de prostituées apparaît. Il faudra attendre 2016 pour que le délit de racolage soit supprimé. Les travailleuses du sexe sont alors reconnues comme victimes, un statut qui, selon la militante Cybèle L'Espérance, n'améliore pas leurs conditions.
La loi en France, ce qu'elle dit, c'est que vous n'êtes jamais coupable, vous êtes des victimes d'un système qui vous prostitue, le système prostitueur. Et en tant que victime, on doit vous protéger à tout prix. Et pourtant, la réalité, c'est qu'on n'est pas protégé. Au contraire, nos relations avec les forces de l'ordre sont assez dégradées. Il y a toujours des personnes condamnées pour proxénétisme alors qu'elles sont très qu'elles partagent un logement pour essayer d'assurer leur sécurité, alors qu'il y a toujours des arrêtés municipaux et préfectoraux, comme il y en a à Lyon ou à Toulouse.
8 arrêtés municipaux anti-prostitution ont été pris à Lyon en 2020. Aujourd'hui, les militantes réclament toujours la reconnaissance du travail sexuel et la dépénalisation des clients.
Un mot rapide du temps, il fait moins chaud de façon générale, des orages et des averses des Pyrénées à Rhône-Alpes et sur le Massif central. Ailleurs, des éclaircies comptées 20 à 22 degrés en moyenne. Et c'est la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. Dans quelques instants, c'est la question du jour d'Antoine Dulster avec les annonces de la ministre du Travail et de la Santé la semaine dernière concernant le tabac.